Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et pour la bulle nomade de ce mois-ci, je vous propose de revenir sur le sujet des habitudes, alors que le printemps arrive, et avec lui toutes les résolutions de mieux manger, davantage bouger, sortir plus, tout ce qui peut arriver avec le printemps. Donc aujourd'hui, je me suis installée, comme d'habitude, dans mon dressing, avec un petit thé. Aujourd'hui, j'ai pris une petite théière en fonte avec une toute petite tasse de thé. L'avantage, c'est que la théière en fonte, elle maintient le thé au chaud, comme on va se parler pendant, je pense, une bonne petite demi-heure. Ça permet de servir le thé petit peu, par rapport à un mug, où le thé va refroidir et dans une demi-heure, mon thé il sera froid. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir, il est 16h45 au moment où j'enregistre ce podcast. Et je me suis fait un rooibos de pleine lune qui s'appelle Full Moon Party de chez Mariage Frères que j'avais acheté autour d'Halloween au mois d'octobre. Donc à voir s'il est disponible toute l'année ou pas. Et puis ben comme c'est le début du printemps, au moment où je filme ce podcast, le week-end dernier, je suis allée à la jardinerie, j'ai acheté des plantes et j'ai passé le week-end à rempoter, à réorganiser la déco de l'appartement, réorganiser les plantes, voir où est-ce qu'elles se sentent bien. Je trouve que c'est un vrai plaisir en début de printemps, surtout moi qui habite en appartement en région urbaine et qui n'ai pas du tout ni de balcon ni de jardin. La réorganisation des plantes d'intérieur du printemps, c'est un vrai plaisir de saison pour moi. J'espère que vous profitez vous-même de vos plaisirs du début de printemps. Si vous écoutez ce podcast depuis l'hémisphère nord au moment de sa publication. Et maintenant, l'arrivée du printemps, c'est aussi l'arrivée des bonnes habitudes. Personnellement, j'ai décidé de remettre des habitudes de mouvement dans mon quotidien. C'est ce que j'ai appelé le plan anti-sédentarité, la fameuse opération MBDR, manger, bouger, dormir, ralentir. Si vous écoutez les Bulles Nomades depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Parce que je me suis rendu compte qu'entre le Covid, entre 2020 et 2022, le fait que je travaille à mon compte depuis 2017 maintenant, dans un métier d'artiste indépendante où la plupart du travail que je fais c'est soit devant un ordinateur, soit à un bureau avec du papier et des pinceaux, du coup je me suis rendu compte que je suis devenue très très sédentaire. Et l'année 2022 qui a été une année très épuisante pour moi, comme vous le savez peut-être si vous avez suivi mes différents contenus, mes habitudes et routines se sont un petit peu délitées en fait ces dernières années. Et là en 2023, maintenant que j'ai instauré une organisation un peu plus sereine, que je commence à reprendre de l'énergie, que le printemps arrive et que l'énergie est également propice à ça, propice à la germination, à un nouveau départ, j'ai décidé de reconstruire petit à petit mes propres habitudes et mes routines. Et une question que je me suis posée, et où je voulais partager la réponse avec vous, je me suis demandé pourquoi certaines habitudes marchent-elles et pas d'autres. J'ai lu plein de bouquins sur le sujet, et d'ailleurs dans les différentes émissions autour de l'opération MBDR, je pense que je vous ai déjà parlé des ressources hyper intéressantes qui existent autour des habitudes, notamment des inspirations de type psychologique, neuropsychologique, etc., qui expliquent le fonctionnement des habitudes. Si ça vous intéresse de suivre ce genre de ressources, je sais que moi ce que j'ai adoré le compound effect de Darren Hardy, l'effet cumulé en français de Darren Hardy, j'ai adoré ces habitudes qui font grandir votre talent par Fumio Sasaki. J'avais bien aimé aussi le livre qui s'appelait Eat, Move, Sleep, je me rappelle plus de l'auteur mais je le mettrai dans les notes de l'émission, qui parlait justement des petites habitudes progressives à mettre dans sa routine du quotidien, etc. Donc des bouquins, il en existe pas mal sur le sujet. Maintenant, l'exercice que j'ai fait en fait pour moi-même cette année, c'est au lieu d'aller lire un bouquin et d'aller voir de la théorie, je me suis dit, voyons voir un peu, après justement tout ce Covid, cette année d'épuisement, etc., quelles sont les habitudes qui sont restées dans mon quotidien à moi. Donc c'est vraiment de l'expérience personnelle. Pourquoi je les ai adoptées à l'époque et comment je les ai adoptées à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ces habitudes sont devenues des habitudes? Et comment ça se fait qu'elles sont restées? Je me suis dit qu'à ce stade-là, vu que justement j'ai lu beaucoup de théories jusqu'à présent, je me suis dit qu'à ce stade-là, ça pourrait être intéressant d'étudier mon expérience personnelle, de venir faire un petit peu la curiosité scientifique sur ma propre vie et de venir regarder avec curiosité et sans jugement comment ça se fait qu'il y a certaines habitudes qui sont restées, qu'est-ce que ça veut dire sur ce qui me motive moi personnellement aussi, et essayer d'en tirer en fait des pistes pour faire durer les prochaines habitudes que j'ai envie de remettre dans mon quotidien à partir de maintenant. Que ce soit des habitudes de santé, puisqu'au mois de mars, mon objectif c'était tout ce qui était anti-sédentarité, mais aussi les habitudes créatives, les habitudes sociales, les habitudes de travail, n'importe quoi qui rentre dans notre quotidien d'être humain finalement. Et donc, j'ai trouvé plusieurs points communs dans ces habitudes passées qui sont restées, que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas si elles s'appliqueront toutes à vous, parce que nous sommes chacun et chacune différents, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même personnalité, c'est pas les mêmes choses qui nous motivent. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous être utile d'avoir une piste de réflexion à partir de mon expérience personnelle, et je ne peux que vous inviter à faire le même exercice finalement avec vos propres habitudes. Regardez un petit peu quelles habitudes vous avez gardées, comment ça se fait, et en tirer vos propres conclusions. En attendant, voilà les conclusions que j'en tire pour moi-même et ce que je vais faire du coup ce printemps avec les nouvelles habitudes que je vais mettre en place. La première chose, c'est de passer à l'action tout de suite. En comparant les petites habitudes que j'ai prises et gardées versus celles que j'ai jamais appliquées, où je me suis dit c'est sympa mais c'est resté dans la théorie, j'ai remarqué un point commun. Les habitudes qui sont restées sont celles pour lesquelles je suis passée à l'action tout de suite. C'est notamment arrivé avec plusieurs habitudes tirées de livres, de non-fiction ou de conseils que j'ai pu voir en vidéo sur YouTube par exemple. Je me souviens d'une vidéo qui date de pas mal d'années maintenant, de la blogueuse qui est maintenant youtubeuse qui s'appelle Colline, que vous connaissez peut-être, qui fait des trucs beauté et style de vie. Et dans une de ses vidéos d'il y a plusieurs années, elle nous avait parlé de ce qu'elle appelait le parmesan végétal, qui est en fait un mélange de noix de cajou avec, je crois que de l'ail en poudre, de la levure maltée, du sel, du poivre, de l'oignon en semoule, des choses comme ça. Et en fait, vous mixez tout ça, et ça fait une espèce de petite préparation végétale qui sert d'assaisonnement pour la salade, qui sert pour mettre sur les gratins, par exemple, notamment les gratins véganes, pour pas mettre de fromage dessus, etc., etc. Et donc, dans cette vidéo, elle se fabriquait son parmesan végétal. Et je m'étais dit, mais c'est super, ça a l'air trop cool. Et je me suis rendu compte que 4-5 ans après, là, j'ai encore ma jarre de parmesan végétal dans la cuisine. Et j'ai encore un stock d'ingrédients, donc les noix de cajou nature, la levure de bière, qui sont chez moi et que je continue à stocker pour être sûre d'en avoir et que je continue à utiliser des années après. Je le saupoudre sur ma salade, je saupoudre des moitiés d'avocat le matin, sur le dessus de bol de riz, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, je me suis demandé pourquoi cette idée est-elle restée. Et je m'en souviens encore, c'est que je me souviens que quand Colline a proposé cette recette dans sa vidéo, au lieu de simplement me dire « Tiens, c'est sympa, faudra que j'y pense » et passer à autre chose, je me souviens d'avoir mis la vidéo en pause, d'avoir noté la recette dans mon carnet qui était sur OneNote à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore Notion, donc c'était sur l'application qui s'appelle OneNote. Et dans la foulée, j'ai pris un post-it et j'ai noté les ingrédients pour ma prochaine visite en magasin bio. Parce que les ingrédients du parmesan végétal, c'est un peu genre truc qu'on trouve au magasin bio. Et du coup, alors après, je me rappelle plus des détails, ça fait des années, mais j'imagine que le week-end suivant, j'ai dû emmener mon post-it au magasin et j'ai acheté les trucs et je l'ai testé le week-end même et paf, c'est rentré tout de suite dans mon habitude. Dans la même veine, ça fait quelques années que j'utilise ce qu'on appelle un gratte-langue en cuivre dans mon hygiène bucco-dentaire. C'est un truc qui sert à se gratter la langue. Pour avoir la langue propre. Et ça aussi, c'est une idée qui me vient d'une vidéo YouTube. La youtubeuse s'appelle Radhi Delvouki, je crois. C'est une anglaise d'origine indienne qui habite à Los Angeles. Et elle tient une chaîne YouTube avec notamment des conseils et astuces beauté, nourriture, etc. autour de l'Ayurveda et des choses comme ça. Et dans une vidéo en particulier qui devait être 10 petites habitudes ayurvédiques, un truc comme ça, je me souviens de deux habitudes, cette histoire de gratte-langue et une tisane ayurvédique du soir. Et ces deux habitudes que j'ai gardées de sa vidéo. Et pareil, comme avec le parmesan végétal de Colline, c'est quelque chose que j'ai fait tout de suite. C'est-à-dire que dès la fin de la vidéo, je suis allée sur internet trouver un gratte-langue que j'ai commandé en ligne et que j'ai fait livrer à la maison tout de suite. Et je suis allée acheter les épices pour la tisane ayurvédique la même semaine. Les épices, ça vous intéresse? C'est des graines de cumin, des graines de cardamome et des graines de fenouil mélangées à... Enfin, moi, je les mélange toutes les trois dans un pot en verre et puis j'en prends une cuillère à café que je mets avec de l'eau chaude le soir, si vous voulez savoir. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des piliers d'une habitude qui reste. C'est que quand on en entend parler ou quand on décide d'installer ça dans le quotidien, on passe à l'action tout de suite. On se demande quelle est la première étape immédiate, quel est le premier pas qui mène à faire rentrer cette habitude concrètement dans notre quotidien dès maintenant. Et cette première étape, ça peut être noter l'idée dans un coin où on sait qu'on va venir piocher dans ses idées d'habitude la prochaine fois qu'on fait le point sur nos habitudes. Ça peut être ajouter un achat à une liste de courses. Ça peut être ajouter un repas à une liste des menus de la semaine. Ça peut être mettre dans l'agenda. Par exemple, si on décide d'avoir une habitude de visiter des musées tous les mois, et ben, dès que je vois dans le métro une expo qui peut m'intéresser, et ben, dès que je prends en photo la pub et dès que je rentre chez moi, je vais sur le site et je réserve l'expo tout de suite. Parce que sinon, je ne vais jamais le faire. Voilà donc la première piste que je vous propose de passer à l'action tout de suite. La deuxième piste de point commun que j'ai trouvé dans ces habitudes qui restent, c'est d'attacher l'habitude à une routine existante. Donc en étudiant mes habitudes qui sont restées au fil des années, j'ai trouvé donc ce point commun-là. Ce sont des habitudes qui se sont attachées à une routine existante, ce qui m'a permis de les intégrer sans effort à mon quotidien. Pour en revenir aux exemples déjà cités, l'habitude de nettoyer ma langue avec un gratte-langue est venue s'ajouter à la routine existante de me laver les dents. Elle est donc venue s'ajouter tout naturellement à une activité qui était déjà automatique et quotidienne. Je me lave les dents, juste après m'être rincé la bouche, je passe le gratte-langue, je nettoie le gratte-langue et puis je range tout. Et voilà. Un autre exemple, donc cette fameuse tisane ayurvédique dont je vous parlais, que je prépare une fois en pyjama avant d'aller au lit le soir vers 21h30. Avant, je me préparais un verre d'eau, une tisane classique. Et en fait, cette nouvelle tisane est juste venue remplacer une activité que je faisais déjà, à un moment qui arrive déjà tous les soirs, au moment de me glisser au lit pour lire avant de dormir. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est ajouté à une routine qui existe déjà et du coup ça prend beaucoup moins d'énergie d'y penser, puisque ça vient avec quelque chose auquel je pense déjà. Voilà, donc l'idée derrière cette piste, c'est plutôt que de faire rentrer quelque chose de totalement nouveau dans votre quotidien auquel il faut repenser chaque jour, l'idée, ça va être de venir attacher cette nouvelle habitude, cette nouvelle routine à quelque chose qu'on fait déjà régulièrement. Ça facilite le travail du cerveau qui doit penser à quelque chose de nouveau. Ça rend l'adoption de l'habitude plus facile finalement. Donc cette habitude-là peut être directement liée à un automatisme existant, comme l'exemple du gratte-langue juste après m'être brossé les dents. C'est de l'hygiène bucco-dentaire dans les deux cas, du coup c'est logique de les attacher l'une à l'autre. Mais ça peut être aussi deux choses complètement indépendantes l'une de l'autre. Simplement le moment de la journée où le lieu de la maison sont liés entre les deux habitudes et vous utilisez ça comme idée d'attachement en fait. Par exemple, si vous devez prendre des vitamines tous les matins et que vous buvez déjà du café ou du thé, pourquoi ne pas prendre le cachet de vitamines pendant que la cafetière ou la théière se met en route? Comme ça, dès que vous êtes en train de commencer à préparer votre boisson chaude, le cerveau il va dire « tiens, vitamine !» C'est plus facile. Si vous avez envie de commencer une habitude de journal hebdomadaire, pourquoi ne pas se dire « tiens, je vais sortir mon journal tous les dimanches en revenant du marché, après avoir rangé les légumes dans le frigo ?» Dans ce moment de battement, en revenant du marché et avant de préparer le déjeuner, par exemple. D'autres exemples que je peux vous citer là-dessus, j'ai ajouté ma routine de journal quotidienne, celle que j'appelle le parle-singe dans les différents contenus, si vous vous en souvenez. Donc celle-ci, je l'ai ajoutée au tout début de ma journée de travail, juste après avoir préparé ma journée dans le bullet journal, pendant que mon PC se lance et que ma boîte mail se lance. Et donc comme ça, c'est quelque chose que je faisais déjà, préparer ma journée dans le bullet journal, puis lancer mon PC, et ben j'ai inséré le parle-singe entre les deux. J'ai également placé mon tapis de marche à côté du bureau, qui est un appareil assis debout que je peux régler en fait. Je peux m'asseoir devant mon bureau, puis je peux changer la hauteur et je peux travailler debout. Et je peux donc travailler avec un tapis de marche sous les pieds et en marchant. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que, notamment en fin de journée, quand je descends tous mes mails avant la fin de la journée, vérifier qu'il n'y a pas d'urgence, Je vais pas faire de mails compliqués, mais ça va être le moment où je boucle un peu ma journée de travail. Et ben, je vais mettre en marche le tapis et marcher pendant que je fais ça. Et ça me fait une demi-heure, une heure de marche par jour supplémentaire pendant quelque chose que je fais déjà, qui est le dernier check de la boîte mail de la journée avant de terminer le travail. C'est donc la deuxième piste pour des habitudes qui durent, attacher une nouvelle habitude à une activité ou routine existante. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes données personnelles et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Troisième piste de réflexion, une habitude à la fois. Donc ça, c'est la troisième piste que je vous propose aujourd'hui et qui ne sera pas une surprise pour vous si vous avez écouté les bulles nomades précédentes, puisque j'en ai déjà parlé en détail dans l'épisode qui s'appelle « Petit à petit ». J'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile de faire durer une habitude quand on cherche à les ajouter une à la fois plutôt que de chercher à mettre plusieurs nouvelles habitudes en même temps dans le quotidien. La clé ici, c'est que ça prend de la charge mentale d'insérer une nouveauté dans le quotidien. C'est pas encore automatique, du coup il faut y penser. Et bien souvent, il faut tester aussi, c'est-à-dire que vu que c'est nouveau, il faut essayer peut-être plusieurs outils, plusieurs moments de la journée, plusieurs durées, plusieurs types d'organisation pour que ça s'insère bien et que ça fonctionne bien pour nous-mêmes. Du coup, cette période de mise en place d'une nouvelle habitude, dans une certaine mesure, en fonction de si l'habitude est minimale ou si c'est une habitude assez lourde, ça peut prendre du temps, mais surtout, ça prend de l'énergie mentale en fait. Du coup, si on essaye de changer plusieurs habitudes à la fois dans plusieurs domaines, le cerveau va essayer de se focaliser sur trop de choses à la fois, ça prend trop d'énergie, et c'est là qu'on risque d'en oublier certaines, de mal expérimenter ou de laisser tomber, parce que c'est trop d'efforts de tout maintenir. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise pendant très très longtemps, notamment pendant la fameuse période bien connue des bonnes résolutions du mois de janvier ou de la rentrée en septembre, où il y a cette énergie du renouveau, vous savez, de aller lundi, je me lève tôt, je mange sain, je fais du sport tous les jours, je reprends la musique, je fais ci, je fais ça. Et du coup, en essayant de changer tout le quotidien d'un coup, eh ben, il n'y a rien qui reste. Du coup, maintenant, je me focalise sur un domaine à la fois, puis lorsque je suis dans ce domaine, je me focalise sur une habitude à la fois. Par exemple, ce début d'année, mon domaine, c'est l'énergie physique et mentale, parce que j'ai eu une année extrêmement épuisante en 2022, on a déjà parlé si vous écoutez mes différents contenus. Et du coup, pour moi, c'était important de reprendre les choses vraiment à leur base et me concentrer sur remplir ces fameuses jauges d'énergie avant de mettre en place autre chose. Par exemple, cette année, je ne vais pas mettre en place de nouvelles habitudes créatives parce que mon focus, c'est mon corps, mon esprit, mes besoins, mes cycles, mon énergie. Ça, c'est un choix que j'ai fait personnellement. Et dans ce domaine-là, je me focalise sur une habitude à la fois. Donc, par exemple, en février, je me suis concentrée sur une évolution d'organisation personnelle où je répartis mes tâches du mois en fonction de mon cycle organique plutôt que de les répartir juste du lundi au vendredi ou par ordre de priorité d'urgence ou quoi. J'ai décidé de faire attention au moment du mois où j'ai plus ou moins d'énergie en fonction de mes hormones. Et du coup, j'ai changé un petit peu l'organisation de mon Notion et de mon bullet journal. Et le mois de février, c'était uniquement consacré à ça, à tester les nouvelles dispositions de pages dans le bullet journal, dans le Notion, à tester comment je peux faire pour gérer les priorités, les dates limites dans tout ça, etc., etc. Et une fois que ce système a été testé, j'ai poursuivi cette nouvelle organisation au mois de mars, mais le gros de l'énergie était dépensé. C'est-à-dire que j'ai trouvé une mise en page qui me convient à la fois dans le bullet journal et dans le Notion. Du coup, je n'ai plus qu'à la perpétuer, ce qui prend beaucoup moins d'énergie que lorsqu'on teste une nouveauté. Et du coup, au mois de mars, donc mon seul focus, c'était le projet anti-sédentarité et la seule habitude, c'était d'utiliser mon tapis de marche pour remettre du mouvement dans mes journées de travail sédentaires. Et du coup, je me suis acheté un bureau assis debout et un tapis de marche. Je les ai installés dans mon bureau. Donc ça, c'est la mise en place initiale qui prend de l'énergie. Et dans ce cas-là, ça prend aussi de l'argent. Heureusement que toutes les nouvelles habitudes ne sont pas aussi coûteuses. Hein. Et puis en mars, je ne me suis focalisée que là-dessus. Comment introduire une petite demi-heure ou une petite heure de marche sur le tapis dans ma journée de travail. Et cette habitude a occupé toute ma charge mentale de nouveautés, entre guillemets, ce mois de mars. Bien sûr, quand il s'agit d'une toute petite habitude comme le gratte-langue ou le parmesan végétal que j'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être pas nécessaire d'y consacrer un mois entier. Mais c'est le principe en fait que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est-à-dire le principe de faire les choses l'une après l'autre au lieu de chercher à tout changer du jour au lendemain. Rappelez-vous, on a tout le temps du monde pour changer nos habitudes. On n'a pas besoin d'avoir tout changé demain. Enfin, quatrième piste que je tire de mes observations et que j'utilise pour mes habitudes cette année, c'est d'adapter l'environnement. C'est-à-dire adapter l'environnement de ma vie quotidienne pour que ce soit facile et pratique de tenir les nouvelles habitudes en question. En d'autres termes, plus c'est facile à faire, plus l'habitude va durer et plus elle va s'automatiser rapidement. Par contre, plus les objets nécessaires sont rangés au fond d'un placard, plus on va avoir la flemme de les sortir ou même on va oublier qu'ils sont là et l'habitude risque de s'estomper. Donc l'idée, c'est de laisser à portée de main, à l'endroit où on pratique l'habitude, ce dont on a besoin pour le faire. Pour reprendre les exemples d'habitudes cités au fil de ce podcast, j'ai mélangé les épices ayurvédiques dans un pot en verre, donc mes graines de cumin, mes graines de curcuma et mes graines de fenouil, et je les ai placées à côté de la bouilloire pour y penser en voyant le pot, le soir, et facilement prendre une cuillère du mélange au lieu de devoir farfouiller dans tout le tiroir à épices, sortir les trois épices, etc. etc. J'ai mis mon gratte-langue avec la brosse à dents et le dentifrice dans le tiroir de la salle de bain. Donc lorsque je viens pour me laver les dents, j'ai le gratte-langue sous le nez, donc je n'oublie pas de le faire. Le tapis de marche est glissé à la verticale à côté du bureau. Il est déjà branché à l'électricité. Les baskets de course sont rangées dans un coin de la pièce. Donc lorsque je veux arriver au moment de la journée où je vais marcher, c'est très facile de sortir tout ça et de me mettre en route. J'ai toujours un peu de parmesan végétal déjà prêt, avec le reste des condiments dans un pot en verre hermétique, et les ingrédients principaux, donc en l'occurrence les noix de cajou nature et la levure maltée, sont dans la liste des choses à racheter dès que je n'en ai plus. Donc c'est un ingrédient qui est systématiquement présent chez moi. Si j'ai besoin de refaire du parmesan végétal, dans 90% des cas, je peux le faire tout de suite. Un autre exemple, mon carnet à part le singe est dans le tiroir du bureau où je prépare ma journée chaque matin. D'autres exemples, c'est, vous savez, les électroménagers. Je sais pas vous, mais moi, au fil des années, j'ai possédé plein d'appareils électroménagers que j'utilisais pas, genre un extracteur à jus, des machins comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les appareils électroménagers que j'utilisais jamais, c'est parce que je les rangeais dans le tiroir et que j'oubliais leur existence. Du coup, là maintenant, sur le comptoir de la cuisine, il y a la machine à gazéifier pour faire de l'eau gazeuse, il y a le grille-pain, il y a le robot pour faire les smoothies. Comme ça, ils sont là, ils sont sortis. Et du coup, ça me rappelle de les utiliser, de les intégrer dans mes habitudes quotidiennes. Voilà, donc en gros, l'idée de cette piste est simple. Je rends l'environnement propice à la continuation de mes bonnes habitudes. Ça fait partie de ces dépenses d'énergie au début de la mise en place d'une nouvelle habitude, c'est-à-dire trouver les outils dont on a besoin et choisir où on les range pour qu'on se souvienne qu'ils sont là et pour qu'ils soient faciles à atteindre. Et en fait, une fois que cette mise en place initiale est faite, et qu'on a expérimenté et qu'on a trouvé une solution qui nous convient, l'habitude n'en est que plus simple à faire durer par la suite. D'autres exemples, allez. Ma liseuse est rangée à côté de mon fauteuil de lecture préféré, les thés sont rangés sous le comptoir de la bouilloire à eau chaude, à côté de la cuillère et des filtres à thé, donc tout ce dont j'ai besoin pour faire du thé est au même endroit. Les huiles de bain sont dans le tiroir de la salle de bain juste à côté de la baignoire. Les bâtonnets d'encens et un briquet sont rangés dans le tiroir à côté du bureau où est posé le porte-encens. Et le porte-encens en question sert aussi de décoration du bureau. Le tapis de sport est roulé à côté de l'espace où je le déroule pour pratiquer mes étirements et mon yoga. J'ai acheté un stand à l'époque pour suspendre mon violon pour qu'il reste à portée de vue. Même si là, pour le coup, je vous avoue que je n'ai pas pratiqué le violon depuis que mon prof a déménagé hors de Paris. Mais c'est un exemple quand même, c'est ce qui m'avait permis de continuer le violon pendant plusieurs années jusqu'à ce que mon prof déménage. Voici donc les quatre pistes que je vous propose de tester pour vous-même et d'adapter à votre propre personnalité, votre propre vie, pour aider nos habitudes à devenir plus durables. Donc petit 1, passer à l'action tout de suite. Petit 2, attacher l'habitude à une routine existante. Petit 3, une habitude à la fois. Et petit 4, adapter l'environnement. Est-ce que vous avez vous-même d'autres pistes, des idées et des astuces issues de votre propre expérience qui vous ont permis de rendre vos routines et habitudes quotidiennes durables? N'hésitez pas à les partager avec les autres poditeurs et poditrices en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn186, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF. Vous pouvez aussi en discuter sur le serveur Discord de Café aux Étoiles, dont le lien d'invitation est sur le site de la maison d'édition caféauxétoiles.fr, dans le pied de page, ou me contacter via floriteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique le premier dimanche de chaque mois, que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !